Merci donc pour la transition. Alors, j'ai décidé d'écrire de manière totalement autonome quelque chose sur Sid Vicious, sans doute pour essayer de comprendre un peu une fascination un peu obsédante que j'ai eue pour cette séquence du film La Grande Escroquerie du Rock'n'Roll, que je dirais pas en anglais parce que je parle très mal anglais, où Sid Vicious chante My Way. Peut-être aussi pour essayer de comprendre pourquoi le punk me met toujours dans cet état. Enfin, le corps, hein, c'est aussi celui qui reçoit le punk. Et j'espère que vous supporterez ma naïveté, un regard un peu naïf que je vais poser hein, sur le punk, parce que je ne suis pas une spécialiste. La carrière des Sex Pistols n'a duré qu'un peu plus de 3 ans. On peut se demander comment il aurait pu en être autrement, comment le punk, dans sa pureté radicale, peut-il être fait pour durer, et pourtant il dure. Il dure par ricochet, par écho, par métissage. Le punk fascine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'intellectualise, hein, je suis là, on l'esthétise, on joue avec, on érige ses valeurs sans les incarner totalement, sans se mettre en danger, sans se donner totalement violemment en pâture jusqu'à la mort sur le terrain du réel. En tout cas, il se peut que face à la monstruosité de l'hyperadaptation, du conformisme ambiant, toujours évolutif aussi, on honore le travail du négatif du punk, la façon dont le punk arrive à tenir, une ambivalence archaïque, celle de la pulsion de vie et de la pulsion de mort. De nos jours, apparemment, enfin, le punk devient un préfixe ou un suffixe pour composer de nouveaux mouvements. Le punk est devenu une tonalité, une couleur, une nuance, une posture qu'on rajoute à autre chose. Un peu comme si la nudité du mot ne pouvait pas être tout à fait tenable. Mais peut-être que l'être punk a toujours existé, bien avant sa nomination, cultivant sa sauvagerie et évoluant en secret dans les zones incernables et indicibles de l'opposition à la tyrannie des valeurs dominantes, échappant sans cesse à sa désignation dans une fuite en avant. On peut se demander si le mot a nu tue la chose. En tout cas, c'est en 71, hein, de ce que j'ai compris, qu'un journaliste anglais va poser le mot qui tue. Hein, sur les groupes de vauriens, et pour les Sex Pistols devenant les égéries du punk à partir de 75, le sort en est jeté, condamnés à n'être qu'une parodie d'eux-mêmes, mais ils incarnent encore le punk et les slogans identitaires de façon presque christique, et chacune de leurs stigmates a ouvert et consacré un avenir à la contre-culture. McLaren, le manager des Sex Pistols, est bien souvent et sans doute à tort considéré comme le démiurge du punk, il aimait à parler de ses créatures, et s'est régulièrement plu à dire que si Johnny Rotten était la voix du punk, Sid Vicious en était l'attitude. En quelque sorte, si l'on pouvait sublimer si Johnny Rotten pouvait sublimer par la création vocale le concept du créateur, l'autre, Sid Vicious, n'était en mesure a priori que de jouer son propre rôle. Il incarnait le concept malgré lui, il était le punk dans ses apparences, prenant le pas sur l'être, une pure négativité condamnée à la destruction, à l'autosabotage. Johnny Rotten, en 78, à la fin de la tournée des Sex Pistols, ouvre les yeux sur l'emprise de McLaren, qui joue à semer le désastre avec ses jouets cassés qui déraillent. Et le poète punk remet en question la viabilité de cette pure négativité qu'il se doit d'incarner et réalise soudain, peut-être, la solitude psychique à laquelle il pourrait être condamné. Mais en 79, Sid Vicious ne fait plus partie des Sex Pistols. Il s'est montré très ingérable lors de la tournée organisée par McLaren en 78 aux États-Unis, et les anecdotes de ses passages à l'acte agressif dans son propre milieu ne se comptent plus. Il excède les cadres mêmes du punk. On le dit imprévisible, hargneux, dangereux, crétin, toujours ricanant bêtement, toujours obsédé par la drogue, incapable de ressentir de la douleur ou de la culpabilité. Il n'en est pas moins fascinant. McLaren, plus opportuniste que situationniste, va proposer alors à Sid Vicious une carrière en solo qui donnera lieu quelques mois plus tard à Paris à un enregistrement chaotique de la reprise parodique de la chanson My Way, la très célèbre chanson My Way, et au film donc The Great Rock'n'Roll Swindle. Ce film fonctionne comme une fable punk et McLaren va s'y mettre en scène comme un marionnettiste au cynisme jubilatoire et grotesque. Il y présente les Sex Pistols comme des fantoches sous une forme clownesque et leur musique comme la recette d'une escroquerie à l'encontre de la société du spectacle. Mais surtout, c'est pour ça que j'aime pas beaucoup ce film, il y présente les Sex Pistols, il nie dans cette musique, dans ce film, la musique même des Sex Pistols, et surtout le génie, la violence poétique et de la voix de Rotten, que l'on ne peut entendre que comme quelque chose d'inouï. Il s'agira donc ici aussi de rendre hommage à la voix potentielle de Sid Vicious. Donc à la fin du film, il y a la fameuse séquence où Sid Vicious est invité dans un show à l'Olympia. Cette scénette musicale fonctionne un peu comme un clip que l'on peut regarder isolément du film. La mise en scène perverse est basée sur un décalage et un malentendu, sur un face-à-face mortifère entre le punk isolé sur la scène et un public grotesque qui n'entend rien et peut susciter une fascination scopique pour un regard tiers qui comprend l'ironie que le public fictif du film ne comprend pas. Il convient donc d'essayer de percer le mystère de cette fascination que le corps punk isolé sur scène, seul face à tous, peut susciter, ne serait-ce que pour rendre un hommage à la voix de Sid Vicious, au-delà de la parodie, au-delà de l'objet d'une pulsion scopique dans laquelle il s'est laissé enfermer. À la fin des années 70, un pasteur américain aurait proclamé qu'il y a un Johnny Rotten en chacun de nous et qu'il n'a pas besoin qu'on le libère, il faut qu'on le crucifie. Mais Sid Vicious évoque davantage un monde pré-christique, profondément archaïque. C'est le bacchan hirsute et grimaçant des fêtes dionysiaques. Il est de la famille des Gorgones, il est comme la méduse médusée, il a la mort dans les yeux. Dans le clip de My Way, le personnage chanteur qu'il incarne est aussi aveuglé qu'aveuglant, et il est comme poussé au crime. Cela explique peut-être aussi la puissance cathartique de la séquence du film pour un regard externe qui fait tiers, conscient de l'ironie tragique qui va s'abattre sur le héros punk. De fait, peu de temps après, sur le terrain du réel, on retrouve Sid Vicious mutique auprès de Nancy Springen, morte d'un coup de couteau rouillé dans le ventre. Sid Vicious ne se souvient de rien et meurt à 21 ans d'une overdose, dose apportée d'ailleurs par sa mère, en attendant son procès. Peu avant sa mort, dans sa dernière interview officielle, John Simon Ritchie, alias Sid Vicious, n'est plus qu'un enfant hagard, au bord du mutisme, disloqué, psychotique. Le regard fuyant, il répète de façon mécanique qu'il sait qu'il va mourir, que sa seule quête c'est le fun et qu'il ne rêve que d'être under the ground. Il a regardé la mort en face et elle est rentrée en lui. Dorénavant, le divertissement ne peut plus rien pour l'aider à la fuir. C'est un héros de l'absurde qui, comme Meursault, passe à l'acte sous l'effet d'un aveuglement et qui, dans son incapacité à ressentir quoi que ce soit, ne fait que révéler l'absurdité, la violence, l'hypocrisie et le profond manque d'empathie du monde qui l'entoure. On va poser un regard sémiologique sur le clip My Way. Donc cela ressemble à un show télévisé, à une soirée de Nouvel An de grande envergure, le lieu même à l'opposé des scènes alternatives punk. On voit l'enseigne lumineuse de l'Olympia en rose, puis par effet de montage, Eddie Barclay en veste blanche de gala annonçait en grande pompe Sid Vicious, comme s'il s'agissait d'une guest star internationale venue spécialement pour l'occasion. On voit le jeune punk qui joue son propre rôle descendre d'un escalier lumineux qui clignote de rose et de bleu, sous les applaudissements continus d'un public caricatural assis, constitué de jeunes groupies hystériques qui évoquent le public des Beatles. Mais aussi de vieux couples déguisés comme de vieux enfants plutôt qu'apprêtés pour une soirée à l'opéra organisée par une reine pour une reine. Dans la dialectique de ce montage, le regard externe qui fait tiers alterne entre la scène et la salle et peut hésiter dans l'interprétation des intentions du public qui pourrait être aussi celui d'une sorte d'élite décadente protégée par une séparation entre la scène et la salle, très enthousiaste à l'idée d'accueillir leur bouffon punk hein, ou leur élu comme roi temporaire. Mais la bêtise crasse et naïve de ce public sourd, aveugle et aveuglant est assez rapidement perceptible et il semble que nous l'apercevions déjà à travers le regard isolé du punk, agressé par une altérité conformiste de masse qui lui fait face. Il n'entreverrait que des aspects grotesques et monstrueux. La stylistique ironique de Flaubert, finalement, pour épingler la vulgarité de la médiocrité et de ses normes, n'est pas loin. Le jeune punk apparaît tout en haut des escaliers de cette scène. Il porte une veste trop large pour lui, une veste de gala à la Sinatra, qui évoque également la blancheur immaculée des tenues d'Elvis Presley. Il est torse nu en dessous et l'on aperçoit ses côtes, son corps malingre et décharné. Il porte un pantalon noir très serré qui met en évidence sa maigreur et une bandelette blanche effilochée enserre sa cuisse droite comme un garrot de fortune ou comme une jarretière de mariée moribonde. Dégingandé, hirsute, effectivement, il évoque la posture du dandy avec ce plaisir aristocratique de déplaire. Il descend les escaliers en titubant à l'opposé des codes de cérémonie des escaliers dans les grands shows à l'américaine. Face au public, qui continue à l'applaudir de façon mécanique, aveuglé par des spots braqués sur la scène comme par un soleil tout-puissant, on voit le visage de près de ce jeune punk, sa peau fragile, ses rougeurs, ses boutons. Sur son visage s'esquisse un sourire goguenard. Seul face à tous, comme un personnage romantique paroxystique, une sorte de Lorenzaccio moderne qui s'apprête à commettre un peu le tyrannicide, il semble surexposé. Commence donc l'introduction du musical de My Way, et voilà, qui partage l'espace sonore avec des applaudissements et des petits cris de groupies, hein, dans une sorte de rapport de force absurde et cacophonique. Celui qui joue son propre rôle apparaît alors comme un enfant sauvage enfermé dans la cage du show, condamné à surjouer les singeries savantes du punk. Dans un premier temps et dans la tradition de la chanson, on voit l'attaque de ses premières paroles et le chanteur punk commence à mimer du maniérisme jusqu'à la caricature comme un enfant qui joue à imiter la grandiloquence de l'adulte, la voix d'un Sinatra ou d'un Elvis Presley. Il surjoue le sérieux, il les singe. Tous les procédés de parodie et de la dérision sont en place, mais les femmes, jeunes ou vieilles, se pâment sans discernement devant la star officielle et le public continue d'applaudir aveuglément avec un enthousiasme totalement inadapté. Cela crée une discordance et un malentendu très agressif. Dès lors, la rage et la fureur cynique du chanteur punk grimaçant comme un singe se déclenchent et dans les procédés de distorsion, il vomit cette chanson avec jubilation comme on dégueulerait un discours conformiste d'autatisfaction. Toujours aveuglé par les spots braqués sur lui, il va jusqu'à ses limites vocales, mais le public continue à se pâmer et d'applaudir de plus belle sans rien entendre. Mis à part, peut-être, un vieil homme qui s'endort malgré la cacophonie et un jeune glouton qui mange un gâteau au chocolat comme s'il était au cinéma et qui s'arrête dans son élan d'ingurgitation. La fin approche et le malentendu est trop violent comme à la fin d'un repas de famille à Noël qui se termine dans le drame. Le jeune punk, surexposé, seul face à tous, a fait le don de tout son corps, de toute sa rage agressive, de toute sa puissance parodique, mais il n'a suscité rien d'autre que des applaudissements continus. Habitué dans son propre milieu à exciter un public punk jusqu'à ce que pleuvent les canettes de bière lancées violemment, hein, dans cette espèce de rituel d'expulsion, hein, dont parle d'ailleurs très bien dans, musique, dans le chapitre « Musique est sacrée » Claude Chastagnier, lui, par contre, il ne reçoit, à la fin de la chanson, que des roses. Et mis en avant alors par anticipation une sorte de proto-Columbine, avec toute l'imprévisibilité du comportement punk, poussé au passage à l'acte et au crime par la violence du malentendu, celui qui joue son propre rôle sort son dernier argument, celui du terrorisme. Toujours aveuglé par les spots braqués sur lui, il tire plusieurs fois dans le tas, brisant là le quatrième mur, la frontière sacrée entre la salle et la scène. Dans cette mise en scène perverse, l'icône des Sex Pistols va jusqu'au bout, au pied de la lettre et de l'acte, de l'expression qui le signifie. Puis il finit par jeter son arme avec ce désintérêt au milieu des roses qui jonchent la scène, et enfin le public est surpris et commence à avoir une attitude adaptée. Il remonte donc les escaliers sans se presser, avec la même désinvolture titubante que quand il les avait descendus. Donc il s'agit d'une scène finalement qui a suscité quelque chose d'obsédant chez moi, parce qu'elle contient sans doute quelque chose d'archaïque, une violence fondamentale au plus près de l'inconscient collectif. Cette petite scénette joue sur le motif de la fête qui tourne mal et me mène par association d'idées à l'ouvrage de René Girard, « La violence et le sacré ». Et notamment de la victime émissaire à l'irruption de la violence dionysiaque. Ça peut évoquer aussi les bacchantes, hein, d'Euripide, quand Dionysos arrive sur Thèbes, qui vit dans le déni de la violence et dans l'obsession du contrôle des excès. La vengeance de Dionysos sous sa forme éruptive et ingérable figure une sorte de retour du refoulé. C'est le mal inattendu qui prépare l'effondrement d'un ordre social et culturel. Dans cette séquence farcesque, le jeune punk et ce bacchant possédé par Dionysos, venu pour une sorte de fête où la violence réciproque aurait pu se révéler ouvertement et se résoudre dans le jeu, dans une fête, dans un face-à-face, sous la forme d'un jeu symbolique partagé. D'ailleurs, les femmes du public semblent comme possédées, hein, comme dans les bacchantes, par une hystérie qui ne basculera jamais dans cette violence réciproque, car elles s'en tiennent à une hystérie de groupies, convenue, ridicule, imbécile, codifiée, sans discernement, égale à elle-même face à quoi que ce soit. Ici, la violence du public est une violence qui se méconnaît et que le jeune punk cherche à révéler en se posant comme objet de substitution sacrificielle. Révéler la violence réciproque dans la fête sacrificielle, c'est accepter que ponctuellement, le désir collectif s'oriente vers la violence elle-même, dans une perte de différence entre violence, une violence qui serait impure, et une violence qui serait purificatrice. Le jeune punk, isolé de sa communauté, le corps à nu, dans le dispositif de cette séquence, a pourtant été élu par une société fantoche comme un roi temporaire, une sorte de roi des fous, victime idéale en instance de sacrifice. Il échappe par le haut à la société dont il ne fait pas partie en tant que roi, avec une posture un peu aristocratique, et aussi par le bas, en tant que fou, c'est-à-dire en tant que marginal, ingérable, mais qui détient une vérité. En se posant comme un objet de substitution sacrificielle, il aurait pu être ce trompe-violence symbolique s'il avait été reconnu comme tel. Dans sa situation d'extériorité à la société, le jeune punk est ce pharmakos grec, tout à la fois venin et remède, qui par son sacrifice symbolique peut protéger la communauté entière de sa propre violence en la révélant ouvertement le temps d'une crise au sein d'une fête sacrificielle. Cette séquence raconte avant tout, selon moi, l'histoire d'une fête qui tourne mal et d'un rite sacrificiel au lynchage raté. C'est que le malentendu et le déni de la violence l'emportent sur tout. Au-delà de la fascination scopique que suscite le corps punk sur scène, comment entendre ce que dit la voix punk ? Cette séquence fonctionne un peu comme une scène médusante. Entre le public et le punk seul sur scène, il y a une sorte de dialectique entre les différents regards, dans une relation miroir perverse, puisqu'un aveuglement, l'un symbolique, celui de la bêtise de la salle, et l'autre réel, le spot braqué sur le jeune punk, fait obstacle à la rencontre en voyant chacun à cette difformité caricaturale. De même, le regard tiers assiste au spectacle de l'extérieur et regarde quelqu'un sur scène chercher à voir comment il est regardé, mais renvoyé à lui-même, sous l'effet d'un aveuglement. La séparation entre la scène et la salle fait office de bouclier, comme celui de Persée, qui regarde non pas la méduse avec ses yeux, mais avec le miroir de son bouclier. De fait, de la scène à la salle, chacun est la méduse de l'autre. Il y a une mise en scène d'un couple d'opposés déséquilibrés entre la salle et son public multiple, et le jeune punk seul sur scène. Il n'en reste pas moins qu'il y a une relation miroir, et qu'il s'agit pour le regard tiers, celui qui regarde le film, d'une scène psychique où luttent les tendances opposées entre conformisme et révolte. Mais la fascination scopique, ou abolie, suspend la distance de l'œil pour le renvoyer à un fonctionnement de l'œil archaïque. Comme Méduse face à Persée, le jeune punk aurait préféré mourir sous les coups du public plutôt que de se voir refléter dans son miroir. Médusé et médusant, le jeune punk, au sommet mortifère de son narcissisme, est fasciné parce qu'il ne le quitte pas du regard. Lui-même est une image qui sidère, parce qu'au lieu de nous renvoyer l'apparence de notre figure, elle la représente dans sa grimace. Dès lors, de la scène à la salle, chacune des entités en présence représente l'horreur terrifiante d'une altérité radicale. Donc voilà, c'est bien le rapport à la mort qui se joue dans cette séquence, et peut-être que ça explique aussi la fascination qu'elle peut susciter, parce qu'il s'agit d'une mise en scène psychique où se joue le combat entre le faux self et la part d'ombre de chacun. Quoi qu'il en soit, il s'agirait maintenant de s'extirper de la fascination scopique et aveuglante qui menace et enferme aussi le punk en général, le condamnant assez rapidement soit à la destruction ou à la restriction de son processus créateur, soit à la récupération ou à la parodie systématique. Donc il s'agit maintenant de l'entendre et d'entendre ce qu'il y a d'inouï dans le chant punk. Car il y a bien quelque chose d'extraordinaire dans le chant de Sid Vicious dans My Way et évidemment dans celui de Johnny Rotten. Il s'agirait donc de s'ouvrir cette fois-ci à la pulsion invocante. Si, selon Lacan, se faire voir indique d'une flèche qui revient vers le sujet, se faire entendre est un appel vers l'autre, une invocation, qui peut en effet menacer le sujet appelé. Ce sont des projections hors du corps, des pulsions qui signent la perte, ouvrant sur un risque quand elles brisent les liens entre la signification et basculent dans le cri. Le chant punk, dans son appel, peut nous confronter à l'insupportable du ratage et de la discordance. Mais il me semble que ça va chercher ce qui gronde dans chacun de nous, dans notre intériorité, comme une invocation désespérée de l'autre, dans ce temps oublié du langage, le temps même du chaos pulsionnel, celui-là même du barbare, par exemple, de Rimbaud. Hein, je vous cite pas donc le poème. Donc plus simplement aussi, la voix punk va convoquer une sorte d'énergie archaïque, une sorte d'énergie de l'enfance, qui convoque du plaisir brut et de la jubilation sans limite. Simplement, moi, quand je vois mes enfants de 10 ans qui écoutent du punk et je vois ce qui les agite, je me dis que ça va parler quand même aussi, on parle beaucoup de mort, hein, mais de cette pulsion de vie archaïque qui serait celle de l'enfance. C'est-à-dire une jubilation sans limite, celle de l'enfant sauvage et non domestiqué en chacun de nous. Et Sid Vicious, celui qui n'a pas eu d'enfant, s'appelle en chacun de nous l'enfant des origines, avec sa violence interne et illimitée, intolérant à la frustration, mu par une envie viscérale de faire exploser tous les cadres et qui cherche à le contenir et à dompter sa liberté. La voix punk est sans doute, avant tout, l'appel de tous ceux qui, peut-être, un jour, n'ont pas été entendus. Et le rire punk qui atomise les ridicules, tous les ridicules du sérieux et de l'adulte, est l'un des plus jubilatoires qui soit, mais aussi peut-être simultanément l'un des plus angoissants. Donc pour terminer, je dirais que c'est pas anodin cette reprise de My Way, puisque c'est une commande de McLaren et que somme toute ça s'inscrit dans une continuité et dans une tradition. Avec cette reprise parodique, la chanson bascule du signifié au signifiant. C'est-à-dire qu'alors que Sid Vicious porte le masque déformant du punk, il démasque la chanson dans un même mouvement. Le sens porté par la chanson échappe dès lors à la simple communication sociale et à travers lui, l'inconscient collectif apparaît à nu dans une sorte de violence poétique qui surgit pour révéler une vérité implicite, celle que le signifié ne cesse de vouloir cacher. Cette vérité serait celle... serait absolue et universelle, celle qui se cache sous les masques du signifié quand on ne veut rien en savoir. Donc il n'en reste pas moins que le signifié de la chanson est essentiel au fonctionnement punk de la chanson et de son détournement parodisque, jusqu'à son piétinement rageur, de son sens explicite, jusqu'à ce que surgisse finalement l'énergie chaotique du signifiant. C'est-à-dire que finalement, le chant punk lève la barre entre le signifié et le signifiant, c'est-à-dire qu'il s'agit là d'une levée de censure. Et quand on lève la barre du signifié, c'est l'occasion d'un retour du refoulé. Le signifiant libéré par la levée de la barre redonne une primauté donc du signifiant sur les signifiés et nous fait rentrer au royaume du poétique et du symbolique. Dès lors, en transgressant par un passage à l'acte la limite barrée entre la scène et la salle, le jeune punk devient la violente métaphore de cette levée de la barre. My Way, c'est une chanson que tout le monde connaît, que tout le monde a chantée, les plus grands, et c'est quand même la chanson quand même du conformisme ambiant. Hein, donc s'attaquer à cette chanson, c'est aussi s'attaquer au conformisme, à Monsieur Tout le Monde, mais aussi à l'industrie de la musique. Cette chanson, à l'origine, est bien sûr celle de Claude François, met en scène le quotidien, donc avec, comme d'habitude, absurde, assuré par un personnage qui n'en est pas dupe, mais qui continue chaque jour et chaque nuit de jouer à faire semblant d'être heureux et d'aimer dans une succession d'actes mécaniques. C'est la chanson d'une tragédie banale, celle d'un emprisonnement volontaire dans la cage des normes et des habitudes, celle du faux self et d'une servitude volontaire assurée envers et contre tout sur la scène du quotidien. Ce récit pathétique est en proie à une mélancolie contenue qui ne bascule jamais, hein, en tout cas avec Claude François, vers une explosion du cadre. Les Américains s'emparent de cette chanson, qui est très efficace hein, malgré tout, mais ils n'adhèrent pas. Comme d'habitude devient My Way, c'est-à-dire qu'on peut la traduire tout d'un coup par « à ma façon ». Et évidemment, ils n'adhèrent pas hein, au contenu trop pathétique de la chanson de Claude François. Et ça devient tout d'un coup, avec My Way, dans un déni hein, de ce faux self emprisonné par des habitudes, la chanson d'un bilan existentiel d'un humain en fin de cycle ou de fin de vie ou de carrière, où le chanteur-narrateur est certes quelconque, mais il connaît ses travers, mais il devient une sorte de héros du quotidien porté par l'expression d'une autosatisfaction d'avoir vécu à sa façon. Donc je passe sur les interprétations de Frank Sinatra, aussi de la façon dont Elvis Presley chante, en surjouant des émotions qui ne semblent pas traverser son corps. Enfin, j'aime beaucoup Elvis Presley par ailleurs. Celle de Nina Simone, là par contre, là effectivement ce n'est pas du tout une parodie. Avec Nina Simone, My Way échappe au signifié explicite et dépasse largement le cadre d'un lyrisme individuel qui s'affirme comme telle et rejoint une expression universelle en se laissant traverser. Son corps est traversé, mais elle le contient avec le rythme. Et voilà, c'est une très belle version de My Way avec Nina Simone. Donc, avec Sid Vicious qui chante My Way, si la chanson est un discours de sens où s'oppose le chanteur punk, lui, ne s'oppose pas. Son corps, il est traversé par un autre discours que celui du sens apparent. Dans le discours du sens, il y aurait toujours une part de réalité que le locuteur dissimule. Mais avec le chant punk, c'est précisément ce que le sens dissimule qui apparaît. Quand Sid Vicious chante My Way, la parodie se dégage peu à peu d'elle-même jusqu'à ce que l'hypothèse n'importe plus. Ce sont les formes inconscientes qui apparaissent dans un renouveau du lyrisme qui devient paroxystique. Le chant punk cherche avant tout à émouvoir, même si les émotions convoquées sont violentes. Son chant agit plus qu'il ne dit, il est performatif. I did it my way s'entend déjà comme un do it yourself, formule oraculaire et appel au passage à l'acte d'où qu'il vienne. Quand Sid Vicious chante My Way, l'énergie dont il est traversé est à l'opposé du sens apparent, c'est-à-dire à l'opposé d'un bilan de vie autosatisfait. La subversion de sa jeunesse est un appel à la violence régénératrice et purificatrice, qui tente de faire jaillir la source du rocher. Ce que le champion entend librer de lui-même et ce qu'il attend de la réception, c'est de l'énergie pour soulever la complexité ensevelie par les normes et le conformisme. Il vient réveiller les structures profondes du psychisme de chacun. Les mots sont crus, sont à nu, quand ils sont chantés et portés par le corps punk sur scène, dans un moment de crise du langage. Dès lors, le jeune chanteur punk devient une métaphore, et c'est que le signifiant agit comme une pure expérience de l'altérité, en dehors de toute velléité de communication. Quand Sid Vicious chante My Way, entendons enfin la puissance symbolique de cette victime sacrificielle, ce barbare en avant d'un monde à venir, qui mord trop tôt. J'ai entendu Serge Gainsbourg dans une interview qui disait, dans un fond de voix, un fond de phrase, qu'il avait cessé de frayer avec les Anglais le jour où Sid Vicious était mort.
Merci Jessica pour cette communication donc sur une autre icône, me semble-t-il, du punk des années 76-78. Je sais pas, il y a quelques. Yann, peut-être.
Je vais réagir, mais d'une manière. En disant qu'il y a deux époques, Sid Vicious, il faut quand même bien se rappeler ça. Au début, il est très ami avec Johnny Rotten. Ouais. Johnny Rotten dit le plus grand bien de lui, dit qu'effectivement, c'est quelqu'un. C'est même presque un de ses mentors au niveau de la mode, que Sid Vicious est effectivement quelqu'un de très élégant, de très intelligent. Il l'encense, c'est même lui qui le fait rentrer dans les Sex Pistols, contre la volonté de Steve Jones et de Paul Cook, et même McLaren. Donc il y a quand même. Donc je suis assez d'accord au niveau de la deuxième icône punk, peut-être. Pour mon point de vue, peut-être moins puissante que Johnny Rotten, mais il y a quelque chose de très lié entre les deux. Et après, il y a le Sid Vicious qui rencontre la drogue, et là, qui le détruit complètement. Rotten essaye mille et mille fois de l'énoyer. Et d'ailleurs, juste avant l'enregistrement de My Way, Sid Vicious est avec Johnny Rotten, parce que Johnny Rotten veut lui faire faire des enregistrements, veut qu'ils fassent ensemble des enregistrements. Et McLaren, en se basant sur le contrat qu'il a, le force à venir faire l'enregistrement de My Way, l'oblige à le faire, donc c'est vraiment sacrificiel, en le menaçant de le priver d'argent, de l'attaquer en justice. Donc c'est aussi quand même un background bien particulier de faire un enregistrement dans ces conditions-là, en étant menacé par son manager d'être traîné en justice. Et il le fait dans un état physique complètement. Tous les témoins disent qu'il est dans un état qui ne sait même pas ce qu'il fait en fait. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Et je pense que ça, c'est aussi important de le préciser. C'est-à-dire que c'est pas. C'est vrai que là, c'est vraiment une victime sacrificielle, et là, je suis d'accord. Mais c'est presque indépendamment de sa volonté. Je veux dire, il est traîné au pilori. Pour moi, il est traîné au pilori par McLaren. Je veux dire, complètement, on le met en ne faisant absolument pas attention à lui. Et c'est bien ce que raconte, pour moi, le clip. Il est mis en place de grève pour être exécuté. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de convergence entre ce qu'on dit l'un et l'autre.
J'ajouterais que de ce que j'en ai lu, en tout cas, je pense que je ne me rappelle pas la source, mais je crois qu'elle était crédible. La scène finale, c'est lui qui l'a ajoutée. La scène où il flingue le public, c'est lui qui l'a
ajoutée.
D'accord.
Donc il y a probablement aussi une forme de mécanisme de défense aussi par rapport à
la situation.
Il n'y a pas d'autre issue possible. Enfin, quand on regarde le clip, on se dit que c'est la seule résolution possible, même si c'est évidemment une mise en scène.
Et même par rapport à ce que je disais, par rapport justement au contexte dans lequel on l'oblige à le faire, je veux dire, dans une mesure, c'est presque une mise à mort de McLaren, une mise à mort de ceux qui l'obligent à. Alors qu'il est presque.
Il est dans un état
cataclysmique. De faire ça, je veux dire. Donc, et c'est vrai, c'est lui qui ajoute ça. C'était pas du tout prévu au départ.
Et vous avez convoqué la psychanalyse dans tout le texte.
Vous avez
eu un lapsus tout à l'heure.
Je
parlais de regard Pierre au lieu de tiers.
En tout cas, je crois l'avoir entendu.
Ouais. Je sais pas.
Ouais, je me suis pas entendue, mais.
ou alors c'est moi qui l'ai pas entendu. Je crois que.
Qui a entendu
C'est le regard Pierre.